RFI, 8h30 à Paris et Kinshasa, 7h30 en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Édouard Dupénoit.
2,5 milliards au bas mot à la une de cette édition, les prévisions des ONG humanitaires qui travaillent en République démocratique du Congo et qui donnent leurs estimations de besoins financiers pour cette année 2025. Plongeons dans l'inconnu aussi puisque le parachute financier américain ne devrait pas s'ouvrir cette année. Emmanuel Macron reçoit Khalifa Haftar, maréchal incontournable de l'Est de la Libye. Analyse à suivre du contexte de cette rencontre que l'Élysée voulait discrète. Les chemins sinueux enfin de la COP16 qui mène à Rome après le fiasco colombien au mois de novembre. Les négociateurs de cette conférence biodiversité arrachent finalement un compromis cette nuit dans les arrêts de jeu. Au moins 11 personnes sont mortes et plus d'une soixantaine d'autres blessées hier dans deux explosions à Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elles sont survenues à la fin d'un meeting que tenait Corneille Nanga, le coordonnateur de l'AFC M23 soutenu par le Rwanda sur la place de l'Indépendance. Le mouvement politico-militaire accuse Kinshasa d'être responsable, tandis que le président Tshisekedi condamne un acte terroriste odieux. C'est dans le contexte de cette guerre à l'est de la RDC que, à Kinshasa, les représentants d'organisations humanitaires et les bailleurs de fonds ont exposé publiquement hier leur plan de réponse pour cette année 2025. Les ONG estiment qu'elles auront besoin de 2,5 milliards de dollars pour faire face aux multiples besoins des populations congolaises, des besoins qui augmentent alors que les perspectives sont bien sombres depuis le désengagement massif des États-Unis sur ce volet international. Correspondance Coralie Pierret.
Les discours se succèdent à la tribune et tous s'accordent sur la gravité de la crise. Les nouvelles réalités, la prise de Goma et de Bukavu par l'AFC M23, un groupe soutenu par le Rwanda, complexifie le travail des humanitaires dans une zone déjà extrêmement fragile. Luc Lamprière est le directeur du Forum des ONG internationales en RDC.
On est confronté à une multitude de crises au même moment. Les humanitaires sont face à des dilemmes permanents et impossibles. Comment soigner des blessés quand les hôpitaux manquent de tout? Comment prévenir une catastrophe sanitaire alors que le choléra, la rougeole et le Mpox continuent de progresser? Comment protéger les survivantes de violences basées sur le genre, les personnes déplacées qui vivent dans la peur?
Comment également répondre à ces besoins quand les financements manquent? Les annonces de coupes budgétaires pleuvent depuis le gel des aides américaines. Joachim Waverka est l'ambassadeur de Suède en RDC et représentant des bailleurs de fonds.
Je pense que nous nous trouvons dans une situation très très grave. En même temps, c'est un conflit assez oublié quand même. Bien évidemment, avec plus de des attentions sur ces questions, ça pourrait prendre une opportunité pour des bailleurs de fonds d'augmenter leur engagement.
Peu probable que les humanitaires arrivent à mobiliser cette année les 2,5 milliards de dollars demandés. L'année dernière, 1,3 milliard de dollars avaient été récoltés, un financement record grâce notamment à la contribution des États-Unis qui avait couvert 70% du plan de réponse humanitaire. Coralie Pierret, Kinshasa, RFI.
Les échanges de pics diplomatiques se succèdent désormais presque quotidiennement entre la France et l'Algérie. Il a fallu à peine 24 heures pour que Alger réponde aux imprécations du Premier ministre François Bayrou, qui demandait avant-hier un réexamen des accords migratoires entre les deux pays. Finalement, c'est la diplomatie algérienne qui a répondu dès hier soir, en rappelant que Alger n'était à l'origine d'aucune rupture et que la partie française, Paul Lorgerie, devrait en assumer seul l'entière responsabilité.
Le ministère ajoute que l'Algérie rejette catégoriquement les ultimatums et les menaces. De la même manière, elle appliquera une réciprocité stricte et immédiate à toutes les restrictions apportées aux mobilités entre la France et l'Algérie. Pour rappel, lors de sa prise de parole mercredi, le Premier ministre français François Bayrou a donné à Alger un délai de 4 à 6 semaines pour étudier la demande. Si celle-ci n'était pas honorée, il a menacé Alger de dénoncer les accords migratoires. Une surprise pour le gouvernement algérien qui a annoncé dans la foulée ne pas avoir été mis au courant, car la déclaration française concerne certes un texte de 1968, ainsi qu'un traité signé en 2013 qui dispense les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services de l'obtention d'un visa. Or, selon l'article 8 du texte, la France aurait dû notifier l'Algérie par voie diplomatique, ce qu'elle n'a pas fait selon Alger. Dans un élan de regret, le gouvernement algérien dénonce le fait que la relation entre les deux pays soit, je cite, « prise en otage par une extrême droite française revancharde et haineuse qui a gagné son pari sur le débat migratoire ».
Paul Lorgerie, une rencontre discrète hier à l'Elysée, entre Emmanuel Macron et Khalifa Haftar, discrète côté français en tout cas, puisque ce sont notamment les réseaux sociaux du maréchal de l'Est libyen qui ont permis d'apprendre la tenue de cette rencontre sur laquelle la présidence française ne dit pas un mot. Le communiqué de l'armée, fidèle au général Haftar, reste d'ailleurs assez générique. Les deux hommes auraient discuté du processus politique en Libye, de l'appui à la mission de l'ONU ou encore des pistes de coopération qui servent les intérêts communs. Fermez les guillemets. Ouda Ibrahim pour le sous-texte.
Après une période de refroidissement, l'heure est au réchauffement entre Paris et Khalifa Haftar. Les relations s'étaient dégradées après le déploiement des forces russes et des groupes Wagner en Libye. Un réchauffement qui intervient au moment où la communauté internationale à travers l'ONU cherche à instaurer un nouveau gouvernement unifié en Libye. Selon le politologue Hassni Abidi, le maréchal Haftar a surtout apporté des garanties à la France et aux Européens.
De cette visite intervient à la demande de maréchal Haftar qui veut absolument consolider son rôle dans tout processus politique à venir. Deuxième élément, c'est que Haftar veut montrer qu'il n'était pas l'homme de la Russie, surtout après une visite en Biélorussie. Et que, évidemment, les positions militaires que la Russie veut prendre aujourd'hui en Libye après son départ de la Syrie ne se fera pas au détriment de la sécurité des Européens et notamment de la France. C'est un élément central aujourd'hui.
Les discussions entre les deux parties ont porté par ailleurs sur des questions stratégiques et sur la possibilité d'une présence française dans la base militaire Louig à l'extrême sud de la Libye à la frontière avec le Niger. C'est ce qu'affirme le média libyen Fawassel qui cite une source militaire proche de Khalifa Haftar.
Il est 8h37 à Paris, même heure à Rome. Les délégations de plus de 150 pays sont allées chercher au forceps dans la capitale italienne un compromis qu'elles n'avaient pas réussi à trouver en Colombie. Les trois jours de prolongation de la 16e conférence des parties sur la biodiversité, la COP16, arrache finalement un texte consensuel après l'échec cuisant de Cali au mois de novembre. Chacun y est allé de ses concessions et on apprend finalement que d'ici 5 ans, une feuille de route sera mise en place pour mobiliser plus de fonds en faveur de la protection de la biodiversité et que dès la prochaine édition de cette COP en Arménie, les efforts de chaque pays seront évalués collectivement. Lucille Gimbert est notre envoyée spéciale.
Les pays africains voulaient obtenir dès aujourd'hui la création d'un nouveau fonds dédié à la biodiversité et sous l'autorité de la COP. Ils ont dû céder en partie, tout comme ont dû céder les pays développés qui, eux, ne voulaient pas en entendre parler. La solution médiane adoptée, un processus de travail de 5 ans, va évaluer les instruments financiers existants et établir les améliorations souhaitables pour que les pays membres de la Convention sur la diversité biologique décident d'ici 2030 si le plus efficace est un nouveau fonds ou bien l'amélioration d'un ancien. Ousseynou Kassé, président du groupe Afrique.
Nous avons montré ici que c'est le multilatéralisme qui a triomphé. Les différentes parties ont fait beaucoup de concessions pour aller vers un compromis. Nous aurons un mécanisme qui sera dédié exclusivement et bien à la biodiversité, ce qui n'a jamais existé depuis la mise en place de cette convention sur la biodiversité. Et pour nous, c'est un motif de satisfaction. C'est une étape, mais il reste aussi d'autres étapes pour aller vers la mobilisation de plus de ressources pour lutter contre la perte de biodiversité.
Alors que l'aide au développement stagne, voire se réduit. Les pays comptent aller chercher des fonds aussi auprès du secteur privé pour tenter d'atteindre l'objectif des 200 milliards de dollars mobilisés chaque année pour la sauvegarde de la nature. Lucille Gimbert, Rome, RFI.
Dans le nord du Niger, la société civile s'inquiète de l'immobilisme sur le site de la Cominac à Arlitz. Cela fait 4 ans que Orano a baissé le rideau sur cette gigantesque mine d'uranium. Le groupe français qui exploitait le gisement avait commencé des travaux de réhabilitation massifs. Le site doit être rendu à son état quasi initial d'ici 6 ans. Mais le bras de fer engagé ces derniers mois par les autorités de transition à Niamey vis-à-vis du groupe semble avoir grippé cette machine. Orano confirme en effet avoir demandé la suspension temporaire de ses activités de réaménagement, Charlotte Cosset.
En cause, je cite, les ingérences illégitimes et l'absence de dialogue avec les représentants de l'État du Niger qui depuis des mois paralysent la prise de décision essentielle au bon fonctionnement de Cominac. Dans son communiqué, la société civile d'Arlitz s'inquiète, elle, du risque de contamination des nappes phréatiques. Orano affirme maintenir sa volonté de mener à terme les travaux de réaménagement de la mine, mais pour cela, un retour à un mode de fonctionnement normal de la société Cominac est nécessaire, estime l'entreprise. Elle détaille par ailleurs les avancées sur le terrain, 100% des travaux miniers souterrains réalisés, 90% des installations de surface déconstruites, 6 bassins de récupération des boues et eaux industrielles sur 12 traités, 2 autres recouverts, plusieurs milliards de francs CFA investis dans des programmes socio-économiques. Mais la société civile d'Arlit s'interroge sur les financements apportés par Orano. Pour elle, ces engagements ne sont pas tenus, les sommes déboursées proviendraient uniquement des autres actionnaires. L'entreprise française n'a pas souhaité faire de commentaires à ce sujet.
Charlotte Cossen. À compter de ce soir, enfin, la très grande majorité des fidèles musulmans à travers le monde commenceront à observer le mois de Ramadan. 4 semaines de jeûne, de prière et d'introspection. On en parle largement ce matin sur nos antennes. On parle aussi de cette annonce du roi du Maroc qui a émis une recommandation notable cette semaine concernant non pas le Ramadan mais la fête du sacrifice prévue au mois de juin. Mohamed VI souhaite que cette année le sacrifice n'ait pas lieu, notamment pour préserver le cheptel mis à mal par la sécheresse. Mathias Reynal.
Saïd est bouché au marché central de Casablanca. L'annonce du roi a été un soulagement pour lui.
C'est la meilleure des choses à faire avec ces prix très élevés. Le mouton, quand il se vend à 800, 950 euros, c'est pas la peine. C'est mieux de ne pas faire le sacrifice pour préserver les gens modestes.
Selon Saïd, l'annulation du sacrifice devrait profiter au cheptel national et pourrait engendrer une baisse des prix, bénéfique à la fois aux clients et à sa profession.
Plus la viande est chère, moins on fait de bénéfices. Après, le jour de la fête, tu le passes avec ta famille. C'est un jour de célébration, même sans mouton.
Hilde, la quarantaine, est une cliente. Elle n'avait pas prévu, de toute façon, d'acheter un mouton cette année.
Ça fait 2 ans que je ne fais pas le sacrifice. Je n'en ressens pas le besoin. La viande, le poisson, tout est devenu cher.
Pour l'Aïd el-Kbir, Hind va donc prendre un peu de viande chez le boucher et préparer un plat pour sa famille. C'est comme ça que beaucoup de Marocains s'apprêtent à célébrer la fête la plus importante du calendrier musulman. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
À Casablanca, où il est 7h42.